Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En Toute Liberté. En Toute Liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service citoyen et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité de ce soir était membre, hein, voilà, membre du comité stratégique du M5-RFP. Il nous le dira après. En tout cas, il était de ceux qui étaient au boulevard de l'indépendance pour demander un changement de cap, un changement de direction. Il est le président du mouvement social pour le renouveau. Il est docteur, enseignant. Docteur Aboubakar Abdou Touré est notre invité. Docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de répondre à notre invitation. Voilà, je disais en introduction que vous étiez à la place de l'indépendance justement pour demander ce changement-là.
Tout à fait.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que on a déjà amorcé ce changement-là?
Merci, Monsieur Meygan, de m'avoir encore une fois de plus invité sur votre plateau. Je remercie la direction de Djoliba TV pour tout ce qu'elle fait pour informer le peuple malien à temps et avec la bonne information. Ceci dit, pour répondre à votre question, comme vous le dites dans l'introduction, effectivement, le mouvement social pour le renouveau, un jeune parti qui a vu le jour en juin 2016, participer activement au mouvement du M5 pour que le Mali change de paradigme, pour que le Mali change vers des lendemains meilleurs. Et c'est dans ce sens-là que nous avons participé activement à ce mouvement. Et nous ne le regrettons pas. Nous sommes très satisfaits de ce qui s'est passé parce que, certes, tout n'est pas rose, mais je peux dire sans risque de me tromper qu'aujourd'hui, beaucoup de pays en Afrique, dans le reste du monde, les envient pour notre courage, pour notre détermination et pour notre appétit de souveraineté.
Okay. D'accord, appétit de souveraineté. On va justement parler, et avant de parler de souveraineté, on va parler de la crise énergétique. Aujourd'hui, Bamako est dans le noir et les Maliens sont à bout de nerfs. Mais la dernière fois, la ministre de l'énergie et de l'eau, Madame Bintou Camara, était sur les antennes de l'RTM où elle demandait, elle présentait justement ses excuses. Elle demande au peuple de faire preuve de patience. Est-ce que ce discours vous rassure, docteur Aboubakar Abdou Touré?
Merci. Bon, ce discours, c'est un discours d'un ministre de la République. Je m'en tiens à ce qu'elle a dit parce que c'est elle qui est informer des choses. Si j'essaye de dire plus qu'elle, c'est que je risque de me tromper. Mais en tant que Malien, en tant qu'observateur, il est de mon devoir aussi de dire mon point de vue par rapport à cette situation. Il est clair que la situation énergétique au Mali, c'est un problème crucial. Je l'ai dit ici la dernière fois, que c'est plus encore, en plus du problème de Kidal qu'on avait, le problème de l'énergie, de l'électricité constitue un problème crucial pour le développement d'un pays. Sans énergie, sans électricité, il n'y a pas de développement. Et j'avais dit ce jour-là que nous invitons le gouvernement, comme ils sont en train de le faire d'ailleurs, de tout faire pour résoudre ce problème et le plus rapidement possible. Alors je pense que de par les informations que j'ai, c'est le président de transition lui-même qui est en charge de ce dossier. Et je pense que, en tant que patriote, comme n'importe quel Malien, il se soucie de ce problème. Et de par les informations que nous avons, de part et d'autre, de gauche à droite, vraiment, un travail colossal est en train d'être fait pour qu'on puisse trouver une solution à ce problème d'électricité. Donc, je ne peux pas dire plus que ce que le ministre a dit, parce que c'est lui qui est au parfum des choses. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, pour éviter tout amalgame, je m'arrête là.
Voilà. D'accord, mais comment vous-même vous vivez la situation? Est-ce que pour vous, cette situation, elle est tenable, intenable? Comment vous-même vous vivez cette situation? Ou comment votre entourage la vit?
Alors, je disais ça tout de suite. Le problème, il est crucial, c'est un problème réel qui touche l'ensemble du Mali. Ce n'est pas seulement Bamako, mais c'est là, vous venez de dire Bamako, ce n'est pas Bamako seulement. C'est l'ensemble du territoire qui est touché par ce problème. Et je dis que sans énergie, il n'y a pas de développement. Donc, c'est que je suis touché. Je travaille dans l'administration publique, à l'école. Et nous sommes confrontés à ce problème parce que ça fait maintenant des mois qu'on n'arrive pas à faire nos cours d'informatique, par exemple, parce que sans électricité, ce n'est pas possible. Donc, ça nous touche directement au travail, à la maison et partout dans la ville.
Okay.
Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, nous sommes obligés d'être résilients, pensant que sous peu, on aura une solution à ce problème.
Ok, d'accord, on va suivre cette actualité de près. Et puis aussi, l'autre actualité, c'est le dialogue intermalien proposé par le président de la transition. Il y a une commission qui a été mise en place. Le président de cette commission est l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. Est-ce que pour vous, ce dialogue pourra davantage peut-être réconcilier des Maliens divisés de tous bords?
Alors, en tant que parti politique, notre position n'a pas varié depuis la création de notre parti en 2016. À notre congrès de décembre 2017, on a évoqué notre position par rapport à ce problème d'accord d'Alger. Et nous étions très heureux, très très heureux du fait que le gouvernement abroger cet accord et que le président a décidé de mettre en place ce comité de dialogue intermalien de paix auquel nous adhérons entièrement, 100%, qui est présidé par un digne fils du pays, le premier ministre Soumane Youssoufi, président aussi d'une grande association culturelle,
l'Uganda. Ouais,
dont je suis membre, et membre fondateur aussi en 2017 à Gao. Donc je suis très heureux qu'il soit désigné comme président de ce comité intermalien. Et j'ose croire que les choses vont marcher. Pourquoi? Parce que je connais l'homme et je suis conscient et je suis confiant aussi que les hommes et les femmes qui composent ce comité ne travailleront que dans l'intérêt du Mali. Okay. Et c'est ça que nous avons toujours demandé. Et ça rentre dans le cadre, bien sûr, des principes aussi de souveraineté qu'on veut que soit au Mali. Okay. C'est aussi dans ce cadre-là que le président a pris la décision de confier ce dialogue à des Maliens. Okay. Il était décidé que désormais, on ne prendra plus nos valises et nos pancartes pour aller quelque part, pour parler des problèmes du Mali. Désormais, les problèmes du Mali, on va parler de ces problèmes ici, on va chercher la solution ici. Et donc, moi, en tant que parti politique, j'adhère entièrement à cette proposition, je les accompagne, et nous sommes à leur disposition pour que ce dialogue intermalien puisse être une réussite.
Ok. Oui, parlons maintenant de l'actualité de la CEDEAO. On peut même parler de duel entre la CEDEAO et l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et qui disent quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Comment vous, votre parti, a réagi par rapport à cette actualité? Est-ce que pour vous, il ne faut pas quitter la CEDEAO, ou pour vous, hein, pour votre parti, c'est une belle occasion peut-être, hein, de tenter autre chose.
Alors, merci. Monsieur Mega, si vous vous rappelez très bien, lors de mon dernier passage ici, j'ai bien dit autour de cette table que Pousse-Pousse s'arrête au mur. Et que si la CEDEAO ne fait pas attention, le Mali risque de se retirer. Et c'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas que j'avais une information confidentielle venant de Koulba ou Biotrage. Non, c'est mes propres analyses. Je savais que ça allait arriver. Parce que ce que la CEDEAO a fait, aucun pays qui se respecte ne pouvait l'accepter. Alors, nous avons décidé de sortir. Ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on est sorti de la CEDEAO. La CEDEAO, créée en 1975 par nos chefs d'État, la plupart d'ailleurs étaient entre guillemets des putschistes, comme on aime le dire. Et aujourd'hui, on qualifie encore ces mêmes pays qui ont décidé de sortir des putschistes, parce qu'ils sont putschistes, ils n'ont pas le droit de sortir de la CEDEAO. Alors, la CEDEAO, c'est créée pour permettre aux populations de l'espace de pouvoir voyager sans problème, de pouvoir commercer sans problème, en tout cas sur des bases économiques.
Okay.
Nous avons remarqué qu'à partir de 1991, cette CEDEAO a été infiltrée par l'extérieur. Et désormais, ce n'est plus une CEDEAO des peuples, mais une CEDEAO défendant les intérêts de l'extérieur. Alors, nous, pays de l'espace AES, qui œuvrent pour une vraie souveraineté, suite bien sûr à tout ce qui s'est passé, c'est pas la peine de revenir là-dessus, des sanctions et autres. D'ailleurs, le Niger est toujours sous sanctions. Et des sanctions qui ne sont nulle part inscrites dans les statuts, les documents de la CEDEAO. Malgré ça, sous influence étrangère et aussi par méchanceté, des hommes ont décidé de punir des peuples pour lesquels l'organisation a été créée. Et ça m'étonne, l'autre jour, quand j'entendais un président de la sous-région dire qu'il souhaite le retour de ces trois pays, parce que eux, CEDEAO, c'est CEDEAO des peuples. On ne peut pas être CEDEAO des peuples et empêcher à ce même peuple d'importer ou bien d'exporter des médicaments. C'est ça qui se passe au Niger. On a vécu la même situation. Dans ces conditions, que voulez-vous que les responsables de ces pays-là fassent? La décision qu'il fallait prendre, c'est la bonne, sortir de cette CEDEAO. Et nous, au niveau de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, nous allons créer notre Alliance des peuples pour défendre les intérêts des peuples. Peut-être que dans notre entretien, vous aurez d'autres questions par rapport à ça.
Oui, oui, d'accord. Donc vous approuvez, hein, votre parti adhère à cette décision.
On a réagi automatiquement, suite bien sûr à une réunion de notre bureau exécutif.
Oui.
On a réagi et on a écrit officiellement pour féliciter le gouvernement, le président de la transition, son premier ministre, pour avoir pris la décision de sortir de la CEDEAO.
D'accord. Oui, parlons toujours de l'AIS. Au départ, c'était une alliance pour un peu lutter contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, il y a une dimension un peu politique, une dimension géopolitique. On parle même de projet de création de monnaie. Est-ce que pour vous, à ce stade, ce projet, est-ce que il est réalisable? Est-ce qu'il est réaliste?
Alors, de mon point de vue, moi, je ne vois pas de souci par rapport à ça. Hein. Seulement, de but en blanc comme ça, On ne peut pas créer une monnaie. Il faut réfléchir, il faut donner, comme on l'appelle, ce problème de monnaie, il faut le confier aux spécialistes qui vont analyser la situation de long en large, de fond en comble, pour prendre une décision définitive. Ça, c'est pour les spécialistes. Maintenant, en tant que politicien qui parle, quand on parle de souveraineté, la monnaie fait partie des éléments de souveraineté d'un pays.
Okay.
Alors, de ce point de vue, je suis entièrement d'accord à ce qu'on crée notre monnaie. Je ne dis pas que c'est ça que l'AES va faire, mais c'est ma position à moi.
Dans la logique de création de
notre monnaie. Dans la logique de création de notre monnaie. Parce que c'est un élément fondamental de souveraineté.
Okay.
Surtout pour qui connaît la situation que nous vivons depuis 1960 avec ce franc CFA.
Okay.
Cette monnaie venant de l'Allemagne, une politique allemande.
Okay. Parlons maintenant de l'élection présidentielle, le report de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on ne parle pas d'élection présidentielle. Ou bien pour vous, ce n'est pas une priorité pour notre pays.
Merci. La dernière fois, on a un peu parlé de ça. L'élection. Je dis bien, je parle de la position de mon parti. À l'heure actuelle, ce n'est pas notre souci. Nous sommes un parti politique, on a créé le parti, c'est pour chercher le pouvoir. Hein. Et on est prêt à participer aux élections.
Okay. Mm-hmm.
Mais ce n'est pas notre souci aujourd'hui.
Okay.
On a des trucs plus importants. On a un chef de l'État qui fait son travail correctement, de mon point de vue. Il y a un gouvernement qui fait le travail. Et pourquoi on se précipite pour aller à ce que nous avons appelé des élections, entre guillemets, démocratiques, pour encore remettre le pays dans les mains de ceux qui nous ont conduits à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre que pendant plus de 10 ans, que Kidal soit occupé et qu'un président démocratiquement élu, reconnu par la communauté internationale, qui a d'ailleurs envoyé des mercenaires de plus de 22 000 personnes ici pour soi-disant s'interposer entre les bandits armés.
Vous parlez de quels mercenaires?
La MINUSMA.
Ce sont des mercenaires?
Oui, de mon point de vue, oui. C'est des mercenaires.
C'est les Nations Unies.
Les Nations Unies aussi font souvent du mercenariat. Oui. Ce qui se passe au Congo, là, qui est là-bas, ce n'est pas les Nations Unies depuis combien d'années? Est-ce que les Nations Unies ont pu résoudre le problème? Ils étaient là pendant combien d'années? Est-ce qu'ils ont pu résoudre le problème? Ils nous ont empêchés de rentrer dans Kidal. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc, on a eu des responsables, des fils du pays, de notre armée nationale, une institution à respecter qui a fait qu'on est arrivé à Kidal. Aujourd'hui, on a un gouverneur là-bas. On a l'État malien là-bas. On a notre drapeau qui flotte là-bas. Mais qu'est-ce qu'on veut en réalité? Est-ce que les élections, pendant combien d'années? Depuis 1992, on fait des élections. Qu'est-ce que ces élections nous ont apporté? Des mauvais dirigeants. À tous les niveaux. De la mairie jusqu'à Koulouba.
Okay.
Je ne suis pas contre les élections en tant que. Je ne suis pas contre, mais nous ne sommes pas prêts à faire les élections aujourd'hui. Il faut qu'on ait un Mali d'abord, il faut qu'on ait notre pays. Le jour où on aura notre pays, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être 2 ans.
Qu'est-ce que vous appelez avoir notre pays? Parce que vous dites déjà que Kidal, le drapeau malien flotte
non,
à Kidal.
Il ne s'agit
est-ce
pas,
que ce n'est pas ça? Ouais.
Non, il ne s'agit pas seulement du fait que le drapeau du Mali flotte à Kidal. Jusqu'à présent, Il y a des pans entiers du pays qui ne sont pas encore libérés. Ça, je vous le dis. Moi, je suis d'un village, je viens d'un village. Jusqu'à aujourd'hui, le drapeau malien ne flotte pas dans mon village, ne flotte pas dans ma commune, ne flotte pas dans une grande partie de mon cercle. Aujourd'hui, si on me dit de faire des élections, je ne pourrais pas aller voter chez moi, alors que c'est là-bas que je dois voter.
Ça dirait, oui.
Vous voyez, donc, pour nous autres, là, on ne peut pas parler de vote aujourd'hui. La preuve, les élections référendaires qui se sont passées ici, je n'ai pas pu voter parce que je devais aller voter au village.
Vous avez eu peur d'être enlevé?
Non, c'est normal, c'est logique, je suis un homme. Mais chaque année, je vais au village. Hein.
Okay.
Chaque année, je vais dans mon village. Et c'est bon.
Oui, mais maintenant, l'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est que si vous dites qu'on ne part pas aux élections, mais il y a aussi des Maliens qui disent que ces autorités hein, que vous semblez idéalisées hein, ne sont pratiquement pas issues du suffrage universel, que personne n'a voté pour eux pour qu'ils soient devant les Maliens ou parler au nom des Maliens. Est-ce que ce discours-là aussi, pour vous, il ne tient pas la route? Et puis quand vous dites qu'il y a des pans entiers qui ne sont pas sécurisés, est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas aussi à la continuité de l'État?
Non, c'est un processus. C'est un processus, on est dans un processus. J'espère que d'ici là, les pans là qui ne sont pas contrôlés seront contrôlés et ça pourrait nous amener vers les élections. Maintenant, par rapport à la position des autres là qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes, qu'il faut passer par les urnes, c'est leur droit, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, c'est leur point de vue. Hein? Mais de mon point de vue, qu'est-ce qui donne la légitimité? La légitimité, c'est les autres qui pensent qu'il faut aller dans les urnes pour avoir de la légitimité. Ça, c'est des trucs à discuter. Hein. Pour le chef coutumier, n'est pas obligé d'aller passer par les urnes. Hein. Mmh. Et pourtant, il est légitime. Alors, aujourd'hui, ceux qui pensent qu'on doit aller aux élections, là, si réellement, ceux que vous dites tout de suite que j'idéalise, là, s'accrochent au pouvoir, ils peuvent organiser les élections après-demain, peut-être. Ils vont rester au pouvoir s'ils veulent rester au pouvoir. Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, si on va aux élections, c'est eux qui vont gagner les élections. S'ils souhaitent rester. Donc, à quoi bon de se précipiter à aller aux élections, des élections que d'emblée tu vas perdre? À quoi bon? Ça sera quoi? Donc, moi, je...
Ouais, au moins, on saura peut-être qu'ils sont élus, qu'on leur a donné au moins le ticket hein, pour
nous gouverner. Oui. J'ai dit dans notre compréhension des choses, là, l'élection n'est pas une fin en soi. On veut des dirigeants soucieux des intérêts vitaux de notre peuple. Des gens qui défendent les intérêts de la République du Mali et non des marionnettes au service de l'impérialisme. La situation, c'est dans cette situation nous sommes dans une configuration de nouvelles géopolitiques qu'il faut comprendre. Et si vous ne faites pas le bon choix, vous risquez d'être anéanti pour toujours.
Okay.
Et c'est pour cela que les choix stratégiques dont j'avais parlé dans notre récente conférence de presse, je suis entièrement d'accord avec tous les choix stratégiques pris par nos dirigeants pour sauvegarder les intérêts de notre pays. Voilà.
Oui, mais pour vous, on a aujourd'hui les meilleurs dirigeants qu'il faut pour le Mali. Donc pour vous, c'est clair que, ça c'est pour votre parti, c'est clair qu'on a aujourd'hui des dirigeants exemplaires.
Je l'ai dit et je le redis, pour notre parti, au moment où je vous parle, il n'y a pas mieux. Il se peut qu'il puisse avoir dans le futur des gens qui meilleurs, c'est possible. Mais pour le moment, je suis satisfait du travail qui est en train d'être fait, de ce qui a été fait et de ce qui est en train d'être fait. Je suis vraiment satisfait de cela. Ce n'est pas question de langue de bois ou bien autre chose. Hein.
Tu le penses sincèrement?
Je le pense sincèrement, c'est ma conviction. Parce que j'ai dit depuis 2012, notre parti rêvait déjà d'avoir des individus, des personnalités de ce genre à la tête de l'État. C'est notre vœu. Et si on arrive à trouver des gens qui ont à peu près les mêmes idées,
les mêmes idéaux que nous. Pourquoi ne pas les accompagner sans... Tous les Maliens, aujourd'hui, je dis tous les Maliens, quand on parle de sortie de la CEDEAO, que c'est un problème, on va mourir, on va souffrir, je crois que le rôle de tout Malien aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire de manière à ce que la sortie de la CEDEAO puisse être une réussite. Si tu œuvres pour le bonheur du Mali, pourquoi tu te mets à l'écart en critiquant, en insultant, en disant non ou bien jeter des pots de bananes? Tu dois travailler de manière à ce que la sortie soit une réussite.
Oui, mais seulement que certains Maliens disent qu'ils doivent être au moins consultés sur une question majeure pour avoir leur opinion. Est-ce qu'ils sont pour ou contre? Là, au moins, ils auraient pu dire ce qu'ils pensent et que personne ne les a consultés. Et puis, c'est comme s'ils sont devant le fait accompli.
Qui a consulté qui quand on a créé en 1975 la CEDEAO? Est-ce que le président d'alors, Moussa Traoré, il a consulté les Maliens? Il ne les a pas consultés. Quand ils ont fondé la CEDEAO, personne n'a été consulté.
Moussa n'était pas un démocrate.
Non, c'est pas histoire de démocratie. Aujourd'hui, dans les pays que dont vous pensez qu'ils sont démocrates, ils prennent des décisions sans consulter leur peuple. Même en Europe, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises ces derniers temps sans consulter le peuple. Les sanctions contre la Russie, là, le problème de ne pas de couper le gaz, là, est-ce qu'ils ont consulté, comment on l'appelle, leur peuple, qui est en train de souffrir aujourd'hui de cela? Et d'ailleurs, ça a commencé, ils ont commencé à parler. Donc, la démocratie, là, ça, là, vraiment, mettons entre guillemets d'abord cette démocratie.
Oui, mais est-ce que vous êtes en train de dire que la démocratie pour vous ne marche pas, le modèle occidental, le modèle de démocratie pour vous ne cadre pas avec nos réalités, c'est ce que vous êtes en train de dire?
Là, c'est clair et net. Ce n'est pas notre modèle. Il y a des éléments positifs dedans qu'on peut prendre.
Donc, maintenant, qu'est-ce que vous préconisez si vous n'êtes pas pour la démocratie?
Non,
vous êtes pour un président.
Non, je ne dis pas, je n'ai pas dit que je ne suis pas pour la démocratie. Hein.
Oui.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la démocratie à l'européenne, on ne peut pas l'implanter à 100% chez nous.
Mm-hmm.
Il y a des éléments positifs dedans, il faut les prendre. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais penser comme l'européen, penser comme l'Occident, non, je suis désolé, on a des valeurs. Mm-hmm. Ici qu'il faut mettre.
Oui, mais quand on dit d'aller à des élections, est-ce que c'est penser comme des Européens?
Oui, aller dans les élections dans des conditions normales, oui, je suis d'accord. Mais quand les conditions ne sont pas réunies, non.
Oui, mais on a fait un référendum, vous êtes d'accord?
Le référendum est différent de
l'élection présidentielle. Du territoire national.
Non, ça n'a pas été fait sur l'ensemble du territoire.
Mais c'est le gouvernement qui l'a dit.
Oui, ça, c'est ce que le gouvernement a dit.
Donc le gouvernement n'a pas dit la vérité?
Non, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas dit la vérité, mais je sais que ça n'a pas passé sur l'ensemble du territoire.
Oui, mais je vous dis le discours officiel.
Oui, si le discours officiel, on s'en tient à ça, ben on passe.
Voilà, mais on a quand même fait
l'élection référendum, voilà. Mais j'ai dit l'élection présidentielle est une élection fondamentale, ok, qui nécessite, je le redis, à ce que notre pays soit entièrement contrôlé par l'État malien. Deuxièmement, si on va aux élections, de suite par rapport à ce que je venais de dire,
oui.
Et que si ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir souhaitent rester au pouvoir, oui. ils ont toutes les possibilités de rester. On n'a même pas besoin de faire de sondage, hein. Vous causez chaque jour devant votre porte, dans la rue, avec vos camarades. Et vous savez, si on donne la latitude à tout le monde de voter, ils vont passer à 100%. Ils vont dire qu'ils ont triché les élections. C'est des problèmes. Donc, laissez-les travailler, laissez-les faire de manière à ce qu'on ait entièrement notre pays dans la main, avec une véritable armée bien formée, bien structurée, bien sécurisée, bien... comme on l'appelle.
Oui.
Et après, on va aux élections. Les élections sont secondaires par rapport aux problèmes que le Mali vit aujourd'hui.
Mmh. OK. Alors, il y a aussi la récupération des données biométriques et... Malikoura Biométrie, on a dit qu'il y a des génies qui ont pu récupérer les données biométriques du Mali. Comment vous réagissez aussi à cette actualité?
Bon.
Est-ce que c'est une souveraineté numérique ou qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, le gouvernement a officiellement dit que c'est une souveraineté numérique. C'est clair. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont récupéré le mot de passe? Honnêtement, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Le problème à satisfaction se trouve au fait qu'on a pu avoir notre fichier et que désormais
on pourra travailler indépendamment des autres. Et on a pu économiser, entre guillemets, aussi de l'argent par rapport à cela. Donc, je suis satisfait de ça. Maintenant, il peut y avoir des insuffisances dans le processus. Il peut y avoir d'autres problèmes dans le processus. Moi, j'aurais voulu d'ailleurs qu'on ne fasse pas assez de communication par rapport à ça. Ça, c'est mon point de vue personnel.
D'accord. Voilà. Oui, au niveau du M5-RFP aujourd'hui, quelle est la ligne? Est-ce que vous allez soutenir les autorités ou continuer de soutenir les autorités de la transition? Ou bien, parce que vous, au niveau de votre parti, c'est clair, hein, vous voulez que ces autorités continuent et l'action qu'elles ont enclenchée. Mais au niveau du M5-RFP, est-ce que la question est tranchée?
Monsieur le journaliste, le MSR est membre du FSD, FSD membre fondateur du M5. Moi-même qui vous parle, je suis membre du comité stratégique. Okay. Nous sommes entièrement avec les autorités de la transition. Nous sommes avec eux, nous les accompagnons matin et soir dans tout ce qu'ils font. Si nous sommes demandés, on donne notre point de vue, notre avis par rapport aux choses. Okay. Si, même si nous ne sommes pas consultés, souvent on donne notre avis par écrit. Donc, c'est pour vous dire que sur ce point d'accompagnement des autorités, il n'y a pas d'ombre. Nous sommes à 100% avec les autorités de la transition.
Est-ce que le M5 aura un candidat si demain on doit faire des élections?
J'ai dit que nous sommes 100% avec les autorités de la transition.
Oui.
Si par exemple un membre du
M5,
du gouvernement même actuel, des responsables actuels est candidat, c'est possible. Et pourquoi ne pas l'accompagner? Et parallèlement à ça, au niveau du M5, il pourrait y avoir aussi des ambitions de candidature. Je pourrais être candidat, d'autres pourraient être candidats. Et pourquoi pas?
Ah, d'accord. Non, je voudrais savoir s'il y a la question de la candidature unique au niveau du M5. Ou...
Ça n'a jamais été discuté.
Ça n'a jamais été discuté.
Jamais. Okay. Jamais discuté de ça.
Ok. Le président du comité stratégique du M5-RFP, qu'est-ce que vous pensez de son action à la tête de l'exécutif?
Je l'ai dit la dernière fois, il est en train de conduire de main de maître des choses qu'on lui a confiées.
Ok.
Mais Dr. Shogel Kokola Maiga, c'est un génie qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner, qu'il faut respecter. Le Premier ministre, pour ceux qui suivent la politique de 91 à maintenant, savent quel parcours il a fait en politique. Et depuis sa nomination comme PM, en tout cas de mon point de vue, il est en train de faire le maximum pour que le Mali puisse retrouver sa souveraineté. Il est en train de faire le maximum pour qu'il y ait cohésion au sein de l'armée, pour qu'il y ait cohésion au sein de la politique, de la classe politique, bien sûr, qui veut l'avancement du Mali, qui veut le Mali courant dont on a rêvé.
Okay. Pour vous, il y a une classe politique qui ne veut pas de l'avancement du Mali.
Mais quand quelqu'un qui n'adhère pas, comment on appelle, à ton Mali courant, ton projet de Mali courant, qui veut rester toujours dans les mêmes choses qui nous ont mises dans la situation dans laquelle nous sommes.
Mais c'est un choix. Si la personne pense que votre Mali courant peut-être n'est pas véritablement du Mali courant, est-ce qu'il est obligé et aussi de donner son accord. Parce que c'est un projet que vous avez, que vous portez. Est-ce dans les faits, est-ce que c'est du Mali courant? C'est ça la question. Est-ce que... Non, c'est...
Je comprends
la question.
Moi, je vais répondre.
Oui.
Vous pensez que, comme on l'appelle, mettre en place une armée républicaine bien formée, qui défend les intérêts du pays, ce n'est pas un bon Mali courant? Vous pensez que travailler de manière à ce que désormais on puisse combattre la corruption, en tout cas même si ce n'est pas à 100%, parce que la corruption à 100% ne pourra jamais la combattre, mais les actions menées par le gouvernement malien pour respecter les deniers publics, vous pensez que ce n'est pas un bon Mali courant? Celui qui est contre ça, là, il est pour le Mali? Vous pensez que défendre les intérêts du Mali, faire de manière à ce que désormais, s'il y a un contrat entre le Mali et un autre pays, que le Mali puisse aussi gagner quelque chose. Ce Mali Koura là, quelqu'un qui est contre ça, vous pensez qu'il aime le Mali?
Non, mais vous êtes d'accord que le M5, à l'époque, vous étiez un groupe, mais il y a eu du M5, il y a un autre groupe qui est sorti, qui s'appelle aussi M5 RFP Mali Koura.
Oui.
Voilà, donc qui ne partage pas peut-être votre vision, ou qui pense que la première vision du M5 a été dénaturée.
Ce n'est pas la vision qu'il ne partage pas, hein. C'est des problèmes de personnes. Alors que le M5, c'est un esprit. Et cet esprit, c'est les éléments que je viens de citer tout de suite. Si vous ne partagez pas cet esprit, ou bien vous voulez que ce soit vous qui soyez à la tête de la chose pour pouvoir implanter cet esprit, mais ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être à la fois chef. C'est des problèmes de personne, mon frère. Ce n'est pas dans l'intérêt du Mali. C'est des problèmes de personne. Et nous ne sommes pas dans ça. Alors, qui ne veut pas être président? Mais si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui est en train d'œuvrer dans le sens, dans ton sens, pourquoi ne pas l'accompagner? Pourquoi tu veux coûte que ce soit toi? Vous êtes dans un groupe. Vous avez décidé ensemble de choisir quelqu'un qui est en train de conduire les choses de main de maître, de manière normale. Et pourquoi vous vous levez un matin, vous dites non, 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 il faut que ce soit moi? Non.
Donc c'était ça la base.
C'est ça le problème, c'est des problèmes de personnes, ce n'est pas des problèmes du Mali.
Oui, mais ils aussi ils disent que et ils sont pour le Mali, mais que vous aussi, que vous, et peut-être M5 RFP, vous n'êtes pas pour le Mali, mais si vous êtes aussi sur des questions de. Voilà,
nous sommes bien de poste.
C'est eux qui disent ça.
Je dis, nous sommes bien pour le Mali parce que.
L'autre groupe dit ça aussi.
L'origine de cette affaire de M5, c'est nous. Les autres sont venus après. En tout cas, beaucoup sont après. La dernière fois, je vous ai dit, c'est un d'entre eux. Et qui a cheminé avec nous depuis le départ. Sinon, tout le reste, là, ils sont arrivés après quand ils ont vu que le bateau a tangué. Voilà, c'est pour vous dire ça.
Mais est-ce que...
explique une fois de plus, s'il vous plaît, ça explique une fois de plus ce que je viens de dire. Parce que on était dans d'autres mouvements, dans d'autres organisations ensemble, où ils nous ont dit clairement que si c'est pour combattre le régime de Ibeka, qu'ils ne sont pas dedans. Pour ces raisons, nous autres, là, on a quitté parce que nous, on était farouchement contre ce qui s'est passé au Mali. Donc, on voulait coûte que coûte son départ pour qu'il y ait un autre Mali.
D'accord.
Et donc, si aujourd'hui, vous, ils ont vu, on a commencé la lutte, quand ils ont vu, après le 5 juin, quand ils ont vu que les choses partent de manière positive de notre côté, ils sont venus nous rejoindre. Okay. Donc, vous êtes venus nous rejoindre. Au départ, vous étiez contre. Vous êtes venus nous rejoindre et vous voulez aussi prendre la chose en main, non.
Oui, donc ce sont des querelles peut-être de poste. Hein,
c'est des querelles des personnes, des postes, au don de don.
À tous les niveaux ou bien c'est seulement à leur niveau?
Non, à tous les niveaux, au Mali, il y a ces problèmes. Mais quand vous avez des responsables...
Oui, je parle au niveau du M5.
Je parle du M5. En plus du M5, à tous les niveaux, dans les autres niveaux du Mali, c'est la même chose.
Okay.
Parce que le Mali, la plupart des Maliens ne mettent pas le Mali en avant. Ce qui les intéresse, c'est leur propre intérêt.
Okay. Aujourd'hui, il y a aussi la jeunesse M5 RFP qui commence à se clasher sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la jeunesse M5 RFP?
Alors, au niveau de la jeunesse M5 RFP, au niveau du comité stratégique, on n'a pas statué là-dessus. Et c'est dans le programme de statuer sur le problème de la jeunesse. Mais il est clair qu'il y a un problème au niveau de la jeunesse, parce qu'il y a un problème de leadership. Il y a des gens qui veulent, comme je l'ai toujours dit, les luttes intestines au Mali, c'est généralement des luttes de place, de personnes. Donc, il y a une frange des jeunes. Je ne voulais même pas parler de ce truc-là parce que je ne suis pas délégué, je ne parle pas au nom du M5. Mm-hmm. Mais je vais un peu parler de ça pour que vous puissiez un peu comprendre. Il y a une partie de la jeunesse qui veut assurer que le président par intérim quitte son poste.
Le président par intérim, c'est qui?
Bouba Traoré.
Okay. Du M5.
Du M5.
Okay.
Alors, si vous voulez que quelqu'un quitte la tête, vous ne venez pas comme ça pour demander à ce qu'il quitte. Il y a des procédures par lesquelles il faut passer. Et malheureusement pour eux, la majorité absolue et de la jeunesse et du comité stratégique n'est pas d'accord avec ce projet. Donc ça a amené quand même des incompréhensions à leur niveau qui pourraient aussi refléter sur, d'ailleurs, sur, probablement sur le comité stratégique. Mais nous resterons sereins parce que nous savons pourquoi nous sommes là-bas. Okay. Je le disais tantôt.
Donc il n'y a pas de président pour le moment du M5, c'est un intérimaire qui est là ou bien
le président du comité stratégique du M5, c'est Dr Shogel Kokala Meigre, le PM. C'est lui le président.
Okay.
Étant PM,
il a délégué.
Désigné un intérimaire qui assure l'intérim. Voilà.
Ok, d'accord, on va suivre cette actualité de près, on est pratiquement à la fin de l'émission. Et le parti aujourd'hui, comment il se porte, hein? Le MSR, le mouvement social pour le nom, comment il se porte? Rapidement, on est à la fin de l'émission et puis après, on va vous donner la parole pour parler, pour votre message aux Maliens et aux Maliens qui nous regardent.
Vous avez vu le jeudi passé notre conférence de presse, vous avez compris que nous sommes un jeune parti et vous avez compris aussi que notre parti vit,
oui.
Comparé à beaucoup.
Il y avait du monde, ouais.
Donc, sincèrement parlé.
Peut-être un président comblé.
J'étais très heureux. J'étais très heureux de la manière dont les choses sont passées parce que les militants, ils ont répondu. On a fait une conférence de presse vraiment qui a répondu à nos attentes.
Okay.
Qui a été bien médiatisée. On vous remercie d'ailleurs pour votre présence et pour le travail que vous avez fait durant cette conférence de presse. L'élément que vous avez fait passer au niveau de Djoliba TV nous a fait vraiment plaisir.
Okay.
On vous remercie pour cela et pour cela que j'ai dit dans l'introduction, on vous remercie pour le travail professionnel que vous faites.
Okay. Merci.
Donc, à l'image, bien sûr, aujourd'hui, de tous les partis politiques au Mali, vous savez que nous sommes, comment on l'appelle, en train de dormir entre guillemets. Mais souvent, on fait des activités concrètes et aussi en interne, nous menons toujours régulièrement nos réunions. Et je le disais tantôt, par rapport aux différentes activités dans le pays, dans la sous-région, on a toujours réagi par des communiqués pour accompagner nos autorités dans ce sens-là. Parce que je crois que c'est ça aussi un des rôles aussi d'un parti politique. Voilà. Nous faisons des conférences souvent au niveau des jeunes, parce que, à titre de rappel, au niveau de l'école politique, chaque année, il y a nos jeunes qui participent à cette école, dans cette école. D'ailleurs, la première promotion, le majeur de la promotion de mon parti, qui a eu même l'occasion d'aller jusqu'en Hollande pour une formation des mois. Donc, c'est pour vous dire que malgré les problèmes, malgré le fait qu'aujourd'hui, le politicien est décrié dans le pays, d'ailleurs dans le monde entier, malgré cela, on arrive à s'en sortir.
D'accord. Et pour les Maliens que vous regardez ce soir, c'est quoi le message?
Alors, pour les Maliens qui nous regardent, le message que j'ai à lancer à mes compatriotes, c'est vraiment d'être vigilant. Nous sommes dans un tournant important de l'évolution de notre pays. Faisons beaucoup attention. Et quand je dis faisons beaucoup attention, il ne faut pas qu'on se laisse, comment on appelle, miner par des querelles intestines, il faudrait qu'on se donne la main en accompagnant nos autorités pour pouvoir atteindre nos objectifs. Accompagner les autorités ne veut pas dire qu'on ne doit pas leur dire la vérité. Quand ils sont sur la mauvaise voie, on doit leur dire stop. Donc, j'invite l'ensemble des Maliens à aider nos autorités pour que la sortie de la CEDEAO puisse être une réussite pour nos trois États. En faisant comment? En faisant fait de comprendre que cette sortie que les gens pensent va anéantir définitivement nos pays, que cette sortie a des avantages plus que d'inconvénients. de mon point de vue, il est clair que notre souhait, c'est l'union. Mais on ne peut pas être dans un mariage forcé où chaque fois on te parle. Ce n'est pas possible. Même dans le mariage, là, si chaque fois là, le couple, là, il n'y a que des problèmes de querelle, un jour ils vont se séparer à plus forte raison. Une organisation de pays. Donc, l'appel que j'ai à lancer à l'ensemble de mes concitoyens, c'est vraiment de se donner la main pour que la transition réussisse. De se donner la main pour aider aussi le comité de dialogue intermalien de paix pour que la paix puisse revenir définitivement dans notre pays. Parce que sans cela, il est impossible qu'on puisse se développer. Sans cela, il est impossible qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc, en tout cas, au nom de mon parti, je leur souhaite bonne chance et réussite dans toutes leurs activités.
Merci, docteur Aboubakar Abdou Touré. Vous êtes le président du mouvement social pour le renouveau MSR. Merci, c'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Merci et bon vent au parti.
Je vous en prie, c'est vous que je profite de l'occasion une fois de plus pour remercier Yoruba TV. Nous sommes très contents de vous.
D'accord, c'est avec plaisir. Vraiment, chaque fois que vous aurez besoin de nous, vous serez là, Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission, émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Yoruba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le samedi à midi 00. Donc demain, 10h et le samedi à midi 00. Rendez-vous est pris à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté. Au revoir.
Liberté.